Bienvenue et bonsoir. Nous aurons ce soir deux points. Le premier concernant la vie en Avallon, les étudiants. Et le deuxième est le thème de la bonté fondamentale. Concernant la vie en Avallon, il y a différentes personnes qui sont ici, qui viennent ici, avec des motivations diverses et variées. Certains d'entre vous viennent en visiteur pour une session, un stage. D'autres viennent en bénévole pour participer à l'activité et pour un séjour de durée variable. D'autres encore viennent en étudiant avec la motivation de suivre un cursus d'études et de pratiques du Dharma. Ou maintenant aussi de sciences contemplatives. Et d'autres encore sont ici en tant que qu'anciens de la communauté avec une responsabilité dans son fonctionnement, ce que l'on nomme les réguliers, qui ont un poste et une activité, une responsabilité qui est régulière, continue, au service du fonctionnement de la transmission et de la communauté. Il est important d'avoir présent à l'esprit ces différentes motivations et les statuts qui y sont associés. Dans tous les cas, il y a une seule motivation de fond qui est l'étude, la pratique du Dharma. Et donc, la vie en Avallon est organisée dans son rythme quotidien avec une méditation le matin, une méditation le soir. C'est toujours à 7 heures et c'est toujours à 7 heures-ci, c'est-à-dire que c'est une pratique de pleine présence. Ce que je voulais particulièrement présenter ce soir est le suivi des personnes qui sont ici pour une durée variable, mais un certain laps de temps. Donc, pour pouvoir bien entrer dans la pratique, il est important d'être accompagné, et c'est une façon de pouvoir bien intégrer les enseignements, si l'on a des questions, qu'il y ait une guidance. Il y a plusieurs niveaux de guidance, et il y a maintenant sept anciens lamas qui ont fait la retraite des lamas et qui ont une formation, qui vont accompagner toutes les personnes, qu'elles soient bénévoles, qu'elles soient étudiantes, ou aussi dans la retraite continue. Ces sept lamas sont coordonnés par lama Dorje, qui va, s'il vous plaît, nous dire leur nom. Un petit bâton de parole pour lama Dorje.
Il y a lama Sengé, lama Yeshe.
Lama Sengé n'est pas là.
Lama Yeshe.
C'est lui, votre voisin de gauche.
Son voisin, lama Nima.
C'est l'autre voisin.
Lama Sonam,
Il n'est pas là.
qui n'est pas là. Lama Samten, qui n'est pas là. Et lama Taye, qui doit arriver
Et qui n'est pas
prochainement,
là,
mais qui
puisqu'il
n'est pas
doit
là.
arriver.
Voilà. Et moi-même.
Et voilà. De ce set, il y aura la photo que chacun puisse connaître. Wuzhou, qui est qui? Et ils sont les lamas qui vont pouvoir accompagner, guider, s'il y a des questions de pratique ou quoi que ce soit, d'aller vers eux. C'est aussi d'ailleurs une occasion pour dire, n'écoutez pas n'importe qui dans ce qu'il raconte sur le Dharma. Il y a beaucoup de bavards, au masculin ou au féminin. Des fois, j'entends des histoires incroyable. Donc là, vous avez sept anciens lamas qui ont une maturité et une capacité à bien répondre aux questions. Donc allez plutôt vers eux, écoutez-les. Donc, c'est très important. Et ils se sont organisés pour pouvoir tous les mois, au moins une fois par mois, rencontrer chacun, chacune, chacun, en entretien personnel particulier, en entretien de méditation, de pratique. Donc, c'est pour aussi bien les bénévoles que pour les étudiants. Le programme étudiant qui va se mettre en place au mois d'octobre, normalement, il y a encore des précisions, va comprendre un partage du temps entre les matinées et les après-midi. Les matinées avant midi étant consacrées à l'étude, à la pratique et à l'étude, et les après-midi étant participatives dans les activités de la communauté, quoi que ce soit, suivant les circonstances. Et aussi de rappeler qu'il y a toutes les semaines, pour les étudiants en particulier, un moment de questions-réponses, c'est avec lama Dorje, qui est aussi le lama ici de l'Institut, pour organiser la coopération du cercle des lamas, les sept que nous vous avons mentionnés. Et un moment de questions-réponses, un moment de discussion, chaque lundi, à 17h30, de 17h30 à 19h. Est-ce que les principaux points ont été abordés? Donc voilà. C'était le premier point. Petite pause. Ce soir, je vous invite à ce que nous méditions sur la bonté fondamentale. Une première question, est-ce que la bonté fondamentale est quelque chose qui existe ? Ou qui n'existe pas. Et qu'entend-on par bonté fondamentale? L'intelligence et la perception de la bonté fondamentale, c'est la bonté du fond. Là, la sensation, la perception, l'intelligence, la compréhension de cette bonté du fond, de cette bonté fondamentale, ou dit autrement, de notre bon fond, est quelque chose d'essentiel pour bien vivre et pour une vie saine et une vie d'éveil, de réalisation. Et c'est une notion d'autant plus importante que qu'elle ne nous est pas forcément habituelle ou familière. Dans notre contexte occidental, dans notre culture, nous avons souvent un mauvais fond. Il y a des histoires comme quoi tout a commencé avec le péché originel et que la nature humaine est mauvaise. Ça n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas vraiment vrai. Humains, nous avons, nous pourrions dire, une double nature. Une nature profonde et une nature superficielle. Notre nature superficielle est la nature dans laquelle nous sommes habituellement, dans laquelle nous vivons habituellement, dans laquelle nous existons habituellement. C'est un moi, la nature du moi. Dit encore autrement, c'est la nature de l'ego. Moi, ego. Cette nature superficielle, très importante, et il est nécessaire que l'on apprenne à avoir un bon ego. C'est notre nature superficielle, mais un bon ego. Qu'est-ce qu'un bon ego? Un bon ego est un moi qui est capable de relations harmonieuses dans sa vie au quotidien, dans sa vie familiale, professionnelle, qui est capable de travailler avec les autres d'une façon relationnelle, en équipe, en interdépendance, et qui est capable d'aimer, qui est capable de bonnes relations. Et notre éducation, notre culture habituelle, devrait nous constituer comme un bon ego. Néanmoins, un bon ego est un ego qui n'est pas égoïste. C'est un ego qui a l'intelligence de l'interdépendance, de l'interrelation, de l'interpersonnalité, de l'inter-être. Inter-être est un verbe extrêmement intéressant. Vous pouvez essayer de conjuguer inter-être. Ça donne j'intersuis, tu intérêt, il intérêt, nous intersommes, vous intérêtes et ils intersont. Ça n'est pas habituel, je vous le concède, mais c'est une façon d'entrer dans l'intelligence qu'il n'y a pas à proprement parler d'être en soi, mais que tout est inter-être, être de relation, personne de relation. Donc, notre nature superficielle est la nature du moi, du je, de l'ego, et elle peut être bonne dans la mesure où elle est ainsi harmonieusement structurée. Le Dalai Lama dit souvent, une sorte de boutade, si vous êtes égoïste, c'est très bien, mais soyez-le intelligemment, s'il vous plaît. Et être égoïste intelligemment, c'est aussi être altruiste. Être égoïste intelligemment, c'est être altruiste. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant ce qui est bon pour les autres que l'on accomplit aussi ce qui est bon pour soi. Il y a une parole célèbre de Shantideva qui dit « Tous les malheurs du monde viennent du désir de bonheur égoïste, alors que tous les bonheurs du monde viennent du désir de bonheur altruiste. » Dans tout ceci est notre nature, on peut dire superficielle. Notre nature profonde est la nature que nous sommes avant ce que je suis habituellement. Alors, habituellement, je suis moi. Mais que suis-je si je ne suis pas là? On pourrait s'amuser, puisque nous sommes en France, à dire « je pense donc je suis ». Vrai ou faux? Moi, j'aurais tendance à dire oui, sans pour autant être cartésien. Mais si je pense donc je suis, ce qui signifie aussi je suis car je pense, c'est le corollaire. Je suis car je pense. La question suivante est, que suis-je si je ne pense pas ou quand je ne pense pas? Comment suis-je quand je ne pense pas? Ah. Je vous laisse considérer, et c'est une longue histoire qui mérite d'être profondément considérée. Mais ce que je voudrais ce soir vous faire sentir est qu'il y a au fond de nous, au fond du fond, un bon fond. Ou dit autrement, le fond est bon. Et c'est une very good news, une très bonne nouvelle. Je ne peux pas jouer, vous annoncer la bonne nouvelle. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que le fond est bon. Que nous sommes bons, même si nous sommes mauvais. Je ne nie pas que l'on puisse être mauvais dans notre ego, et l'ego, l'égoïsme, est définitivement source de passion et d'illusion qui nous amène dans toutes sortes de comportements qui sont douloureux et pénibles et qui, en ce sens, sont mauvais. Non pas d'un point de vue moral ou d'un jugement d'argument d'autorité, mais simplement du point de vue où ils induisent difficultés, souffrances, douleurs, et où je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la souffrance n'est pas une chose recherchée et n'est pas non plus une chose bonne. Je sais qu'il y a des doloristes. Plus ça fait mal, meilleur c'est. Mais c'est un trip, si vous permettez l'expression, qui a une histoire et qu'il n'est pas nécessaire de cultiver ni de développer. Et ça relève plus d'une spécialité qui n'est pas la nôtre. Donc, nous aspirons tous au bien-être et au bonheur, et nous pouvons considérer comme bon ce qui va dans le sens du bien-être et du bonheur général, non pas égoïste. Comme je vous le disais tout à l'heure, vouloir réaliser son bonheur égoïste et finalement produire son malheur. Réaliser le bonheur des autres est accomplir son propre bonheur. C'est la stratégie win-win. Donc, au fond, c'est-à-dire avant l'ego, avant moi, dans ce que je suis au plus profond de moi-même, dans le fond de mon fond, au fond du cœur, qui est un centre il est une bonté, une immense bonté. Et cette immense bonté est notre bon fond. Ce bon fond est naturel. C'est une deuxième bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il faille fabriquer. C'est quelque chose qui est naturel. Quelque chose qui est déjà là. Qui est déjà en nous. Qui est déjà en soi. Qui est en nous avant moi. Qui est en moi quand je ne suis pas là. Et c'est ce fond que l'on touche ou dans l'expérience duquel l'on va, lorsque l'on pratique, cultive la pleine présence. Ce bon fond est ici, dans l'instant présent. C'est le fond de la nature. Et ce que je vous exprime pourrait se résumer à dire que la nature est bonne. La nature est bonne. Non pas la nature de l'ego, particulièrement, mais la nature fondamentale est bonne. Et ça n'est pas une croyance, ça n'est pas un dogme. La nature de la vie est bonne au sens où elle est saine. La santé est notre état d'harmonie. Qu'est-ce que la santé ? Nous sommes en bonne santé lorsque notre organisme fonctionne, opère harmonieusement, lorsqu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Et la santé est notre état naturel. La maladie, qui est une réalité, vient secondairement comme des dérèglements de la santé, des dysfonctionnements. Mais nous sommes sains avant d'être malades. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes sains. Saint signifiant... Alors, saint, ce n'est pas la peine de mettre un T à saint. Nous sommes en bonne santé, naturellement, et ça n'est que secondairement que des dérèglements maladifs amènent des mal-êtres, des malaises. Donc, ce que nous nommons le bon fond est un état naturel, fondamental, primordial. Et il y a dans cette intelligence beaucoup de dimensions. Il y a une dimension naturelle, il y a une dimension philosophique, il y a une dimension métaphysique, il y a une dimension théologique. On peut développer cela de bien des façons. Mais ce qui est simplement important, c'est de vivre la présence de ce bon fond et de pouvoir se détendre. Pouvoir se détendre dans ce bon fond, de pouvoir, j'irais juste à dire, se lâcher, lâcher prise. En lâchant prise, en se relâchant, en s'ouvrant, l'on s'ouvre à ce bon fond, l'on atterrit. Lâcher prise, on a peur de tomber. On atterrit dans le bon fond. L'intelligence du bon fond amène aussi une forme de confiance en soi. De confiance en soi. Attention, la langue nous piège vite. La confiance en soi, ça n'est pas la confiance en moi, c'est pas la confiance de l'ego arrogant. C'est la confiance en soi. Alors, on pourrait mettre un grand S à soi, en sa nature fondamentale, qui est la bonté de l'instant présent, qui est notre bonté fondamentale telle qu'elle peut se vivre dans l'instantanéité présente. La compréhension du bon fond associé à la pratique de la pleine présence qui nous le fait découvrir petit à petit dans l'expérience, amène aussi une qualité de non-peur. On disait confiance en soi, non-peur. La peur est toujours celle du moi, du petit moi, de l'ego. Dans l'instant présent est un état de non-peur. De présence totale et de non-peur. De non-ego et par là même de non-peur. La bonté fondamentale est le lieu de la protection, le lieu de la non-peur, le lieu où l'on est protégé, le refuge, peut-on dire aussi. Et elle se trouve, cette bonté, dans l'instant premier. L'instant présent, l'immédiateté. Lorsque nous l'entendons, le comprenons un peu, cela peut nous inspirer à entrer dans la pratique pour le vivre et pas à pas de découvrir dans une démarche expérimentale qu'il y a quelque chose de bon, profondément, dans cette démarche. Je pense que ce sera le point final. Et s'il y a des remarques ou des questions, nous avons encore quelques minutes pour nous en entretenir. Donc, je vous passe la parole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Est-ce que le bon fond, toucher le bon fond, permet aussi de découvrir la vraie nature de l'esprit ?
Nature de l'esprit, bon fond, sont des désignations conventionnelles pour un même état. Dit autrement, si vous voulez, la nature de l'esprit est bonne. La nature de la cognition est bonne. Même si dans l'esprit peut secondairement se développer une perception illusoire qui est celle de l'ego, qui est la source de toutes les formes d'illusion et de passion dans tout ce que celles-ci peuvent avoir d'extrêmement destructeur. Et de douloureux. S'il vous plaît, madame.
Rinpoche, pour se maintenir en vie, on est obligé de respecter les lois de la nature et donc de détruire, de manger, enfin, on est forcé de détruire d'autres éléments vivants. Et a priori, ça paraît pas très bon de devoir faire ça.
L'intelligence du bon fond est la source d'une éthique naturelle, et universelle, dont, sans entrer dans les détails, le principe fondamental est la règle d'or, ne fait pas à l'autre la violence dont il voudrait être victime. Le fondement et le principe est celui d'une attitude de non-violence ou d'une éthique de non-violence. Ne fais pas à l'autre la violence que tu ne voudrais pas subir. Respecte l'autre comme toi-même. Donc, par rapport aux autres vivants, éviter de les tuer. On n'a pas envie d'être tué. Et de ne pas non plus même détruire l'autre, l'environnement dont on dépend. L'écosphère et son habitant, habitat, habitant, sont interdépendants. Et en même temps, comme vous le disiez, dans la vie, il y a la vie se nourrit de la vie. Et il y a nécessairement des morts, des destructions. Mais le point dans une éthique du bon fond, dans une éthique de non-violence, est d'être dans, justement, la moindre violence possible et d'être toujours dans la recherche de ce qui va causer le moins de violence et le moins de souffrance à l'autre. Et ce qui est aussi ce qui va nous causer le moins de souffrance et le moins de violence. Les deux sont interdépendants. Donc on ne peut pas exclure toute violence, mais l'attitude la plus juste est dans la moindre violence. Et le critère éthique naturel est dans la recherche de ce qui va être le moins violent, tant pour soi que pour l'autre, tant pour l'autre que pour soi. Et ce critère de non-violence, vous pouvez l'appliquer dans toutes les questions éthiques, de bioéthique ou d'éthique de vie, nutritionnelle, etc., de relations géopolitiques, internationales, sociales, familiales, conjugales, etc. Bien.
Merci.
D'autres remarques ou Monsieur, s'il vous plaît.
Vous nous avez dit que la... que la pensée, là où la pensée s'arrête, enfin, vous nous avez posé la question sur là où la pensée s'arrête. Il y a un état où la pensée s'arrête. Il y a une situation, un moment où la pensée s'arrête.
Oui. C'est quand je ne pense pas.
Et vous le définiriez par quel autre mot ?
La non-pensée. Mais est-ce que ça m'arrive d'arrêter de penser ? Je vous retourne la question. Est-ce que ça vous arrive d'arrêter de penser ?
Non. Enfin, je ne crois pas.
Je ai raison de croire qu'il n'arrête pas de penser. Mais quand je ne pense pas, je fais une croix sur je. Car je suis car je pense. Alors, c'est sûr que dans la circonstance, je joue sur des mots, mais en même temps pour exprimer quelque chose de très profond et de très vrai. Et nous avons tous connu des moments de non-pensée, sans pensée, des moments où se suspend, où il y a un moment de ravissement, d'émerveillement. Ça nous aide. Dans un moment de contemplation, d'une fleur, d'un paysage, dans un transport amoureux, dans un moment d'épuisement, de relâchement, d'abandon. Ah ! Ces événements sont très importants. Et il nous ouvre à une autre réalité. Nous sommes accros à la pensée. Nous sommes des, je ne sais pas comment on peut dire, mais des pensomaniaques. Nous sommes vraiment accros à la pensée. Je suis accro à la pensée. Et ça, c'est très vrai. Si je ne pense plus, qu'est-ce qui se passe ? Je meurs. Je m'ennuie à mourir. La pratique de la pleine présence nous fait découvrir que si nous sommes bien dans la pensée, si j'existe bien car je pense, que ce mode existentiel n'est pas le seul. Et même le meilleur est un état d'ouverture, de détente, de non-jugement, de simple sensorialité de l'instant présent sans conception, conceptualisation. Et le bonheur de l'instant présent, hein, bonheur, liberté de l'instant présent. C'est possible, c'est une réalité, et c'est notre réalité profonde, et c'est dans cette direction, c'est dans celle-ci que se situe le bon fond. La bonté fondamentale. Une dernière remarque, s'il y en a une, ou autrement.
Rinpoche, on a une question sur le chat.
Le chat.
Oui.
Le chat. Le
chat. C'est Norbou de Rouen. Norbou.
Norbou de Rouen, s'il vous plaît.
Qui demande est-il un signe d'orgueil mal placé le fait d'avoir une mauvaise image de soi?
On peut considérer le fait d'avoir une mauvaise image de soi comme une forme d'orgueil mal placé. C'est une... Mais ça dépend de quel soi l'on parle. Si l'on se rend compte que notre ego, c'est pas terrible, que... Un comportement égoïste habituel, ça craint. C'est une bonne chose. Mais je ne suis pas cela. Et au fond de moi, il y a ce bon fond. Donc, le dénigrer, le nier, dans une attitude autodépréciative, au sens profond, auto-culpabilisatrice, auto-agressive, est une conception inutile, superflue. Et c'est d'une... Un jugement alors, d'orgueil, évidemment, il y a un petit paradoxe, mais d'une certaine façon, dire « je suis le plus grand des plus grands » ou dire « je suis le dernier des derniers », il y a toujours « je » qui s'enorgueillit d'un superlatif, exponentielle. Non. C'est peut-être une forme, en tout cas, c'est une conception superflue. Et une mauvaise image de soi vient de ce que l'on se perçoit uniquement à un niveau superficiel. Et plus l'on va au fond, mieux cela va, mieux c'est. l'ego superficiel dans ses passions et ses illusions n'est pas, est source de souffrance pour les autres et pour soi. Souvenez-vous cette citation de Shantideva que j'énonçais tout à l'heure. Mais au fond du fond, en notre bonté fondamentale, nous sommes bons. Le mental est le domaine de l'ego, le fond du cœur est un bon cœur, qui est naturel et qui est premier.